À l'écoute de l'Italie,
une émission de l'association INIS Italie Nord-Isère.
Le troisième ou dernier lundi du mois à 20h.
Rediffusion le jeudi suivant à 18h et le dimanche suivant à 10h.
Actualité et tradition.
Chansons et gastronomie.
Bonjour Laurent. Bonjour Serge.
Bonjour.
Bonjour Arlette, que vous découvrirez tout à l'heure. Bien, alors depuis le mois dernier, on a beaucoup parlé de l'expo de Milan et divers mouvements autour de l'expo de Milan. Cette fois, dans l'actualité italienne, j'allais dire européenne, on va parler brièvement d'un sujet qui finalement est assez proche de notre thème d'aujourd'hui, parce que le thème d'aujourd'hui, on peut dire, c'est l'immigration. Hein.
C'est une forme de migration.
Voilà. Non, dans l'actualité italienne, je ne sais pas si vous avez entendu, à Grenoble, il y a eu au pied du quartier Saint-Laurent un groupe de gens qui sont venus, de manifestants, de soutien, qui sont venus jeter des fleurs dans les airs pour manifester leur étonnement devant l'Europe qui n'arrive pas à prendre de vraies décisions, de bonnes décisions, en tous les cas des décisions sur ces problèmes dramatiques de bateaux qui coulent en Méditerranée et où les pays du Sud surtout sont en premier lieu concernés, après les autres aussi, mais surtout les pays du Sud et notamment l'Italie et la Grèce et aussi l'Espagne et Malte notamment. Alors, on entend beaucoup parler de ces bateaux hein, qui arrivent en Calabre, en Sicile, à Lampedusa, dont je rappelle que c'est une île qui est plus petite que la Verpillière quand même. Les accidents de bateaux qui coulent, on entend parler des trafiquants, des passeurs en fait, ceux qui s'enrichissent sur le dos de la pauvreté. Hein. Et on entend parler de termes comme Mare Nostrum, Triton, Frontex, HCR. Bon, là, en deux mots, parce que on va pas tout donner des définitions complètes sur chacun, mais Frontex, c'est la police de surveillance des frontières, qui a un rôle plus de surveillance. Mare Nostrum, c'était le Mare Nostrum, pourquoi on l'appelle Mare Nostrum, évidemment, puisque c'est la référence à Méditerranée. C'était la mission qui était purement italienne et financée par l'Italie jusqu'à l'an dernier. Le programme s'arrêtait l'an dernier. Il n'a pas été renouvelé sous la forme Mare Nostrum. On parle de chiffres, là aussi, de finances, puisqu'on parle toujours de finances. On dit qu'il coûtait 9 millions d'euros par mois à l'Italie, qu'il y avait des hélicoptères, une dizaine de bateaux qui essayaient de sauver les migrants, ceux qui étaient en danger sur la mer. Tout ça a été remplacé par Triton. Alors, Triton, qui est une des missions européennes, enfin la plus importante, qui, jusqu'à la fameuse réunion d'il y a quelques jours, consacrait pour toute l'Europe, hein, 3 millions d'euros.
C'est trois fois moins que l'Italie toute seule.
Et après cette grande réunion dont on a parlé, qui devait apporter des décisions importantes. Bon, il n'y a pas eu de décision importante, simplement que Triton est monté au même niveau que était Mare Nostrum au niveau des dépenses financières, enfin de l'argent consacré et des bateaux pouvant essayer d'aider ces migrants. Alors, évidemment, c'est pas simple hein, comme problème parce que on veut faire la distinction entre ceux qui partent pour des problèmes économiques, ceux qui partent à cause des dictatures, ceux qui partent à cause des guerres. Bon, on sait, tout le monde sait que la Libye est en déconfiture, que la Syrie, bon, on sait ce qu'elle est, où elle en est. Et on sait qu'il y a des problèmes en Gambie, en Égypte. Alors comment résoudre ça?
Et quand le bateau coule, la raison,
on l'oublie un peu. Puis alors faire une distinction entre, au moins en mer, entre ceux qui sont à caractère économique, c'est-à-dire qui viennent pour essayer d'avoir une vie un peu meilleure au niveau bien-être de tous les jours, ou ceux qui fuient des dictatures autres, il faut être un petit peu fort pour arriver à ce genre de distinction. Puis je suis pas sûr que ce soit la meilleure des solutions. Après, à l'intérieur même de ces bateaux, il y a des conflits aussi. Hein, il faut pas le cacher. Hein. Soit religieux, soit d'ethnie. Mais c'est l'éternel conflit des gens qui sont complètement à la dérive, de toute façon, sans jeu de mots. Hein. Alors, Matteo Renzi, là, est monté un petit peu au créneau quand même, hein, en disant, on va pas pouvoir continuer. Lui, il parle d'esclavagisme de tout temps, on va pas pouvoir continuer comme ça. Et puis, nous, Italie, la Grèce, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec tout ça? Il faut bien qu'on peut pas... on essaye de sauver des gens. Après, il y a toute la répartition, évidemment, de cette immigration dans toute l'Europe. Bon, alors, dans la fameuse réunion, les 28 pays ont été d'accord sur l'aide financière un peu supérieure, mais n'ont pas du tout été d'accord sur chacun prend une partie des gens qui viennent. Et puis, parallèlement, il y a la montée des extrémismes dans toute l'Europe. Hein. L'un étant peut-être lié à l'autre, j'en sais rien, mais c'est vrai que c'est un...
C'est vrai que c'est difficilement soluble.
C'est difficilement soluble. Alors, pour mémoire, il y avait quand même, dans les années 70, je crois, avec l'asile en Indochine, notamment, il y avait les
boat people. Oui.
La France avait accueilli en 3 énormément, mois, je crois, 128 000 personnes, hein, d'un seul coup, comme ça. Alors, certes, maintenant, il n'y avait pas le chômage qu'il y a maintenant, mais bon, le chômage qu'il y a maintenant... Enfin, sur la partie financière, même si comparaison n'est pas raison, rappelons quand même que cette aide financière correspond à deux salaires du joueur de football de Paris Saint-Germain, par exemple. C'est juste pour une petite note, hein, c'est pas que... Voilà, enfin bon, c'est un peu bizarre. Là-dessus, et sur d'autres thèmes, d'ailleurs, moi je vous conseille le numéro de janvier-février d'une revue dont on a déjà parlé ici, Radici, qui est une revue toulousaine franco-italienne, où il y a des articles en français et en italien, où on développe le sujet de l'immigration, notamment italienne, à une époque en France, et puis maintenant inversement. Et il y a des tas de... Il y a des gens de la culture, du cinéma, qui disent ce qu'ils en pensent. Et il y a notamment Madame le maire de Lampedusa, qui fait un petit article qu'elle reflète sa conférence, puisqu'il y avait eu toute une semaine là-dessus à Toulouse, qui est très, très intéressante. La revue Radici, que vous pouvez trouver sans problème, au moins sur abonnement. Et c'était la revue de janvier-février. Voilà, vous êtes bien sur Couleur FM.
97.1.
Bon, on va commencer par une chanson.
Mais une chanson italienne
ou... On va passer une chanson, puisqu'on parlait de la Grèce et de l'Italie, et que, sans dévoiler le secret de la suite de l'émission, ça sera un peu le thème de l'émission.
On va parler un peu de Grèce.
On va écouter un premier morceau, donc qui est consacré à une musique qu'on appelle Grecanico Salentino, dont on parlera un petit peu après. Et le premier morceau que l'on va entendre, c'est le morceau Agapimou Fidella Protini, qui est un chant greco-salentino. Et nous en dirons quelques mots avant de vous présenter notre invité.
Sto cuore a pezzi si hanno nallinari, c'è dell'ambizione.
Voilà, alors on a entendu, c'est le groupe L'Arpeggiata, le chant solo était de Katerina Papadopoulou, qui est...
Un nom plutôt grec.
Le groupe L'Arpeggiata, qui est dirigé par Christine Naploire. À l'intérieur de ce groupe, il y a des chanteurs et des voix de différents pays d'Europe, et notamment d'Europe du Sud, d'Europe latine. Et donc ce chant faisait partie de ce qu'on appelle les chants grecanico ou greco-salentino, c'est-à-dire ces chants qui sont des chants traditionnels ou des musiques traditionnelles de la partie sud de l'Italie, qui a connu une grosse présence grecque, qui est encore en fait d'actualité, puisque la langue notamment qui y est parlée, hormis le dialecte local, il y a une langue qui est un mélange de grec et d'italien du sud, que ce soit en Calabre ou dans les Pouilles ou en Sicile pour l'autre partie. Et c'est surtout dans la région du Salento, ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire une région entre Otranto et Gallipoli, au talon de la botte. Et la langue, était très présente. Après, dans les années 40-50, on comptait encore plusieurs dizaines de milliers de gens qui la parlaient chez eux, un peu moins...
40-50, c'est 1940.
Oui, 1940-1950. Après, il y a eu un creux, complètement un creux. Et puis maintenant, comme souvent, beaucoup de plus jeunes veulent redécouvrir la tradition, leurs origines. Et elle est à nouveau présente, et pas seulement dans les familles. Et cette langue et ces personnes ont la même appellation, le grico. Oui. Et donc ça. Mais on y reviendra. Et à la musique aussi, qui est à la fois teintée des traditions d'Italie du Sud, notamment de Tarentelle, et puis des musiques d'Orient aussi, et grecques, bien entendu. Ben Serge, je te laisse présenter notre invité.
Donc là, c'était une très bonne introduction, qui n'est peut-être pas due au hasard, puisque...
Si,
nous sommes avec Arlette Comberousse, qui est adhérente de l'INIS et qui est spécialiste de la Grèce. Donc, nous avons eu l'idée de cette émission ensemble pour savoir ce que les Grecs étaient venus faire, pourquoi ils étaient venus en Italie et pas seulement à Marseille. Bonjour Arlette.
Bonjour Serge, bonjour Alain.
Bonjour Arlette.
Donc, on va parler de la colonisation grecque en Italie.
Oui, effectivement, mais le terme de colonisation... est quand même assez particulier, c'est un phénomène original. C'est pas une expédition coloniale, c'est simplement le désir des Grecs de fonder une cité nouvelle, autonome, qui a des liens avec la cité d'origine ou non.
Donc c'était pas comme les Romains qui
pas
sont...
du tout, pas
D'accord.
du tout.
Donc le mot colonisation est assez impropre.
Non, pas vraiment, parce qu'il est employé même par une brillante helléniste qui était Jacqueline de Romilly, donc... mais en sachant que c'est un phénomène original. Mais on emploie quand même ce terme.
Les Romains disaient toujours, enfin les historiens le disent d'ailleurs, que les Romains ne colonisaient pas, ils allaient où ils étaient appelés pour défendre des opprimés.
Ah, ça me rappelle, ça c'est les Tchèques en 68, en août, qui ont appelé les...
Il y en a d'autres sur un autre continent aussi. Hein.
Alors, donc, on va parler donc de ces Grecs qui sont partis de la Grèce et qui n'ont pas été qu'à Marseille. Et Arlette, pourquoi sont-ils partis de chez eux ?
Ben d'abord, je vais préciser les dates. Ils sont partis entre le milieu du 8e siècle avant Jésus-Christ et le milieu du 6e avant Jésus-Christ. Donc en fait, les raisons de cette colonisation sont d'ordre différent. Je crois qu'il y en a deux essentiels. Il y a d'abord le caractère agraire, c'est-à-dire un désir de trouver des nouvelles terres plus riches, par exemple en céréales, en blé, puisque la Campanie et la Sicile étaient des régions très riches dans ce domaine. Et en même temps, il y avait un manque de terres en raison de l'accroissement démographique et puis de l'accaparement des terres par des gens plus puissants. Ensuite, il y a un autre caractère important, c'est un caractère commercial. Une recherche de régions riches, comme je l'ai dit, en blé, en céréales, mais en minerais aussi. Minerais de fer en particulier. D'ailleurs, des fouilles ont fait apparaître des ateliers de traitement du minerai de fer. Il y avait aussi un approvisionnement en bois de construction, une volonté de contrôler certains passages stratégiques pour le commerce, par exemple le détroit de Messine. Et puis peut-être, pense-t-on un tout petit peu plus tard, une volonté de fuir les guerres, parce que la menace perse commençait à se dessiner en Grèce. Voilà.
Menace sur la Grèce, là. Menace perse sur la Grèce.
Oui, menace perse sur la Grèce, oui. Donc, ce qui expliquerait le départ.
Donc, une partie des Grecs sont venus en bateau. Enfin, ils sont venus tous en bateau.
Oui.
Hein. Et les premières côtes qu'ils ont trouvées, donc, c'était celle de la Sicile, le sud de l'Italie. Et comment ils ont été reçus, ces Grecs
Peut-être voir les lieux de la colonisation.
Ou les lieux, lieux d'abord,
pense,
oui.
Je préciserai après
voilà,
cela.
Oui. Les lieux d'abord.
D'abord, les lieux de cette colonisation. Bon, je ne pourrais pas parler de tout, mais je vais essayer de donner les principales villes ou endroits. Les Grecs sont d'abord venus. La première colonisation, dit-on, c'était des Grecs qui venaient de l'île d'Eubée. Et l'île d'Eubée, c'est une grande île au nord de la Grèce. Et ils ont fondé une ville qui s'appelle Pithécuse. On pourrait dire l'île d'Ischia. C'est une île qui est dans le golfe de Naples, dans la baie de Naples.
Donc ça, c'est le premier endroit.
C'est le premier endroit. Donc c'est important, même si ce n'est pas très connu, voilà, de le signaler. Et c'était justement, ils ont développé des ateliers de traitement du fer ici, du minerai de fer. Ensuite, il y a eu la ville de Cume, qui est toujours proche de Naples, alors qui est sur le continent, qui est peut-être rendue célèbre par l'aura qu'on appelle la Sibylle de Cume, je ne sais pas si il faut le préciser.
Mais l'île d'Ischia est connue aussi. Hein.
Pardon ?
L'île d'Ischia est visitée aussi, tu parlais de l'île d'Ischia.
Oui, c'est vrai qu'Ischia est visitée, il y a eu un film d'ailleurs, j'avais vu un film qui se passait là-bas. Et ensuite, il y a eu, si on descend un petit peu, des villes, j'en n'en prendrai qu'une, sur la côte orientale de la Sicile. Là, je parlais donc de la région de la Campanie. Il y a eu la ville de Catane. Et puis, si on suit l'ordre chronologique, il y a eu la ville de Région sur la rive italienne du détroit de Messine. Donc, c'est une première étape des Grecs qui venaient de l'île de Bée. Ensuite, il y a la fondation, par exemple, importante de Syracuse. Si je peux donner la date, ça donne une idée. -733, par les Corinthiens. Les Corinthiens, c'est pas très loin d'Athènes. C'est, l'isthme de Corinthe n'est pas très loin d'Athènes. Ensuite, il y a eu, dans les dernières années du 8e siècle avant Jésus-Christ, des colons qui sont partis du Péloponnèse, c'est-à-dire la partie sud de la Grèce, et qui vont s'établir dans le sud de l'Italie. Je pourrais citer deux villes, il y a Crotone et Tarente. Et le site de Tarente était réputé pour être exceptionnel.
C'est là où il y a la Syrie
modèle. La Syrie modèle.
Ah oui, d'accord. Ouais. Bon, à l'époque, c'était une région soi-disant sûre et poissonneuse, un port sûr.
Il
doit
y avoir beaucoup de poissons dans la mer.
C'est très ancien, -708.
C'est une Syrie qui pollue énormément.
Mais qui redémarre.
Et qui redémarre.
Qui réussit à avoir de l'emploi.
Je citerai encore quelques villes parce qu'elles sont connues. Un petit peu plus tardivement, dans les années -600, il y a une ville qui actuellement s'appelle Paestum, qui est qui est sur la côte amalfitaine, mais qui à l'époque s'appelait Poseidonia chez les Grecs, parce que ce nom venait du nom du dieu Poséidon. Et on pourrait parler aussi de la ville d'Agrigente, qui était fondée par des gens de l'île de Rhodes, mais qui était déjà installée en Sicile, parce qu'en fait, il y a eu une deuxième étape, c'est-à-dire ceux qui étaient installés déjà en Sicile, en Italie du Sud, et qui allaient fonder d'autres villes.
Il y a eu des points d'appui, quoi. Les premiers ont servi de points d'appui au suivant.
Donc la ville d'Agrigente, ainsi la ville de Célinonte, qui est un grand site aussi de l'ouest de la Sicile, la ville de Naples, voilà.
Naples d'ailleurs, Néapolis.
Néapolis, voilà.
Et il y a un groupe de musique qu'on a passé souvent ici, on n'en passera pas aujourd'hui, mais qui s'appelle Néapolis.
Oui, oui, parce qu'au départ, elle s'appelait Parthénope, c'est-à-dire du nom de la sirène, où selon la légende, Ulysse, enfin, c'est l'endroit où Ulysse aurait rejeté la sirène Parthénope. Elle se serait échouée sur le rivage. Donc la liste n'est pas exhaustive.
Oui, mais ça donne quand même les grands points.
Quoi. Les grands points, voilà. Syracuse. Oui, j'ai pris les villes les plus importantes.
C'est Apulie, Sicile, Calabre aussi.
Oui, bah, c'est le nord, pardon, le c'est sud, le sud de l'Italie, la botte qu'on appelait la Grande Grèce. D'ailleurs.
Oui, les Romains les avaient appelés...
oui, la Grande Grèce, je ne l'avais pas dit.
Magna Graecia.
Oui, et la Sicile, oui. Voilà.
Et ces Grecs, quand ils sont arrivés, est-ce qu'ils ont été obligés de sortir l'épée, de se battre
Non, pas vraiment. Enfin, ils ont été parfois même bien accueillis. Parce qu'évidemment, ils arrivaient sur des terres occupées, ils ont été bien accueillis, et ils ont reçu des terres parfois... En particulier en Campanie, c'est-à-dire la région de Naples, les relations ont été assez pacifiques. Elles ont parfois été un peu plus difficiles en Sicile, par exemple à Syracuse, parce qu'ils ont chassé une peuplade qui s'appelait les Sicules. Sinon, cette colonisation, au sens où je l'ai... Enfin, dans la manière dont je l'ai précisé au départ... Les Grecs ont créé des cités indépendantes qui n'étaient pas des prolongements de la métropole. Et il y avait un chef d'expédition qui était chargé de veiller à l'organisation de la cité nouvelle, la répartition des terres, l'établissement des sanctuaires, la mise en place d'institutions. Et les terres étaient en général réparties. Il y avait même parfois une exploitation en commun. On pouvait aller jusqu'à une mise en esclavage.
Quand même.
Tout de même, voilà, de la population indigène.
On va faire une chanson
sur Couleur FM, bien sûr, comme d'habitude.
97.1.
Alors, toujours dans le même style de cette musique et chanson de Canico Salentino, on va écouter un nouveau morceau du même groupe, l'Arpeggiata. Et ce morceau s'appelle Oriano Pisulina. Avec cette langue donc qui a continué à se répandre depuis l'époque dont parlait Arlette et qui a eu l'hellénisation notamment au niveau de la langue, il y a eu aussi un point fort à partir du 8e, mais après aussi Jésus-Christ. Enfin, on reparlera de tout ça aussi. Donc un deuxième morceau de ce type de chant, Oriano Pisulina.
Oriamo Pisulina cieca.
Donc les Grecs sont arrivés et qu'est-ce qu'ils ont amené avec eux?
Il y a une diffusion de ce que l'on appelle l'hellénisme, c'est-à-dire leur langue, leur culture, leur civilisation. Parce qu'avec eux, ils amènent leurs croyances, leurs dieux, leurs pratiques sociales, politiques, leur manière de combattre, leurs techniques. Ils ont même introduit parfois l'alphabet qu'ils venaient d'acquérir au 8e siècle avant Jésus-Christ, l'alphabet grec étant adapté de l'alphabet phénicien.
Ça veut dire que dans le sud de l'Italie, à ce moment-là, il y avait l'alphabet, c'est l'alphabet grec actuel, quoi, avec des...
Oui, c'est les mêmes lettres. D'accord. Hein. Oui, le grec moderne comporte les mêmes lettres que le grec ancien.
Et ils ont laissé des traces dans la langue italienne, j'imagine.
Oui, bien sûr, oui. Alors, dans la langue française,
moi
d'abord.
Qui suis de l'enseignement technique, j'ai jamais compris pourquoi pharmacie en français c'était PH et en italien F.
Oh, bah, si tu commences à chipoter.
le PH français vient directement d'une lettre double grecque, le phi. Mmh. Donc on a gardé l'origine de la langue, en fait. Mmh. Tandis qu'en italien, on a simplifié, on a phonétisé, donc on met simplement
la
plupart, ce qui se prononce. Quoi.
Tout se prononce.
La quasi-totalité des PH français, quand le mot correspond, en italien, il est effectivement...
C'est un F. Oui, c'est un F. Oui,
voilà.
Oui,
photo.
Photo, oui. Mm-hmm.
Donc les Italiens ont simplifié un petit peu ce qui...
Ils sont venus à une langue...
Ce qui veut dire que si on supprimait le PH en France, ce serait pas quand même dramatique. Quoi.
On supprimerait pas que le PH, on supprimerait toute la beauté de la langue.
D'accord. Donc à part la langue, qu'est-ce qu'ils ont apporté?
Il y a eu, comme je l'ai dit, toutes leurs pratiques, leurs dieux, etc. Il y a eu le développement des échanges aussi. On en a des traces sur les nombreux vases, dans les monnaies. Alors, par exemple, au niveau des échanges, la Grèce a fourni des armes, de l'huile, du vin, des produits artisanaux. Et dans les pays dits colonisés, c'était plutôt des céréales, de la laine, du bois et du minerai, comme le minerai de fer. Et en fait, la langue grecque va s'imposer et il y aura un très grand rayonnement culturel de certaines villes dont on reparlera tout à l'heure. On pourrait parler aussi...
Des personnages importants.
Oui.
En préparant l'émission, j'ai appris plein de choses. Impossible. Même sur Pythagore.
D'accord, mais je vais en parler. En fait...
Donc tu te souviens du théorème, sans pas...
Sans, mais c'est, pour moi, c'est que ça.
Non, mais c'est sûr.
Carré de l'hypoténuse égale la somme des carrés de l'angle droit.
Mais monsieur a des références.
Oui, parce qu'en fait, la Grande Grèce et la Sicile ont vu naître des savants, des penseurs, des artistes, et en ont même accueilli d'autres. Alors, pour n'en citer quelques-uns, peut-être les plus connus, Pythagore, donc, qui était né à Samos, en Grèce, enfin, dans une île, mais qui a émigré à Crotone. Donc, et qui est resté dans cette ville, et il a fondé une école philosophique. C'est difficile de vraiment résumer, mais enfin, on pourrait dire que cette école pratiquait une discipline morale qui était fondée sur l'ascétisme, le respect des lois, l'amour du travail, et puis aussi, il y avait une croyance en la métempsychose. C'est-à-dire la migration des âmes dans un autre corps.
Mais c'est un peu éloigné du théorème de Pythagore.
Ah oui, c'est éloigné, mais c'est vrai que Pythagore, comme d'ailleurs d'autres personnages célèbres, étaient parfois, avaient plusieurs cordes à leurs arcs, c'est-à-dire qu'ils pouvaient être savants, mais ils pouvaient être aussi philosophes, religieux. Et c'est pour cela que... On a diverses créations, en fait, de sa part.
Après Pythagore.
Après Pythagore, pour en citer un autre, il y a un, peut-être pas très connu, mais c'est un très grand poète qui s'appelait Théocrite, un peu plus tardif, 3e siècle avant Jésus-Christ. Il était né à Syracuse. Donc, en fait, c'était des descendants des colons, puisque là, on est au 3e siècle avant Jésus-Christ.
Syracuse, c'était la première ou la moins 700, quelque chose
oui,
comme
voilà,
ça.
Oui, voilà, voilà, oui. Et c'était un très grand poète de l'époque qu'on appelait Alexandrine, c'est-à-dire à suite d'Alexandre. Et c'était un poète de l'amour, des charmes de la campagne et des contes qui étaient repris, des légendes mythologiques. Ensuite, un très connu aussi, Archimède, né à Syracuse.
J'ai toujours cru qu'il était grec.
Non.
Mais oui.
Bah, il est descendant,
oui, il est descendant de grec.
Oui, il est né à Syracuse.
Oui, oui, il est né à Syracuse.
Et là, toujours, on est au 3e siècle. Alors, effectivement, sûrement que Serge va nous parler de la poussée d'Archimède.
Je connais peu.
Ah, tu connais peu. Bon, c'était, en fait, il était connu pour être un brillant ingénieur parce que c'est lui qui a permis aux Syracusains de tenir le siège de la ville contre les Romains. Quand les Romains ont voulu conquérir la Sicile. Enfin, on en reparlera rapidement tout à l'heure. Et donc, il avait inventé des machines pour lancer des traits, des pierres à distance. Et il avait aussi trouvé un jeu de miroir pour enflammer les vaisseaux ennemis. Enfin, il a permis aux Syracusains de tenir le siège 3 ans face aux Romains. Et en fait, il était tué de manière un petit peu dommageable parce que les Romains auraient bien voulu le garder.
Mais bon, presser le citron, oui.
Oui. Et il a été tué par un soldat qui ne l'a pas reconnu, évidemment, qui n'avait pas obtenu de réponse de sa part, alors qu'il était absorbé dans la recherche d'un problème en traçant, dit-on, un peu, peut-être un
manque
peu
de
la
vigilance.
Voilà. des traits dans le sable. Et puis, une dernière chose, pour parler de quelques hommes célèbres, ils ne sont pas nés en Grande-Grèce ou en Sicile, mais ils ont été appelés par des tyrans, parce qu'à l'époque, il y a eu des tyrans qui ont régné sur Agrigente, sur Syracuse. Et par exemple, il y a eu le poète Pindare.
Ah, je vous conseille un sketch de Julius Bocarne, qui est un chanteur belge, qui est plus trop connu maintenant, mais qui était très connu il y a une trentaine d'années. Et il a un sketch qui fait référence à Pindare, notamment, enfin une histoire, parce qu'il chantait aussi, en faisant le parallèle entre la chanson, les dictions actuelles, et puis, enfin actuelles d'il y a quelques années, et les poèmes de Pindare, ça vaut l'écoute.
Ah, d'accord. Oui, enfin, si je peux en dire quelques mots, Pindare, mais c'était un poète grec qui composait des odes en l'honneur des victoires d'hommes qui étaient devenus alors célèbres, aux Jeux à Delphes, qu'on appelait les Jeux Pythiques, ou aux Jeux Olympiques. Et donc, en fait, le tyran de Syracuse, qui s'appelait Hiéron Ier, avait été victorieux dans ces deux Jeux Olympiques et Pythiques, et il a célébré la victoire de ses chevaux et de son quadrige à la course de chars.
On est en quelle année, là, à peu près?
Là, on est au 5e siècle avant Jésus-Christ.
D'accord.
Et un autre un tragique qui est venu à la cour, invité aussi par le tyran de Syracuse, Hiéron, c'est Échille, qui est un grand tragique grec. Euripide aussi, un autre tragique qui a vécu après lui. On dit que Platon aurait fréquenté aussi le théâtre de Syracuse. Voilà.
Du beau monde.
Du beau monde.
Des chanteurs, peut-être?
Oui, oui. Alors, toujours avec cette fameuse minorité ethnique et linguistique. Alors, tout au moins les textes ou les musiques en sont inspirés. Le gréco, qui en parenthèse a été reconnu comme minorité linguistique par le Parlement italien, qui reconnaît souvent les minorités linguistiques.
Oui.
Voilà, alors on va écouter Aremu Amegappa par le canzoniere greccanico salentino avec la voix de Mademoiselle Mazzolta.
Su motti medori mese stanno, c'è motti ne su me limona. E se no pensieri su stai a tu, e se no pensieri su stai a tu, su stai e ci no puto ripinna.
canzoniere Greccanico Salentino. On continue avec Arlette.
Voilà, donc, à part ces chansons, qu'est-ce qui reste actuellement de... dans l'Italie du Sud, des sites archéologiques, j'imagine?
Oui. Oui, effectivement, il y a des restes archéologiques qui témoignent de cette présence grecque. Donc, je vais prendre les principaux. En Italie du Sud, il s'agit du site de Paestum. Alors, je rappelle que c'est le nom donné par les Romains quand ils ont fait la conquête de cette région. Autrement, c'était Poseidonia, donc sur la côte amalfitaine. Donc là, sur ce site, il reste trois grands temples très bien conservés de la grande époque, on pourrait dire, de la Grèce, de style dorique, c'est-à-dire le premier style architectural. Alors, il y a un temple dédié à la déesse Héra, la femme de Zeus, le dieu Poséidon, dieu de la mer, et Athéna, déesse de la raison, et qui est la déesse principale à Athènes. Et puis, dans le musée, il y a la fameuse tombe du plongeur, qui date du 5e avant Jésus-Christ, et c'était une découverte sans précédent qui est assez récente, puisqu'elle date de 1968. C'est le seul exemple de peinture grecque de cette époque. Et c'est une œuvre certainement d'un artiste grec natif de Paestum. En fait, c'est une caisse rectangulaire avec quatre côtés peints. Et puis le couvercle, le pain aussi, c'est peut-être la scène la plus connue, c'est une scène du plongeon.
Donc c'est quelqu'un qui plonge dans la mer.
Voilà,
dans l'eau,
c'est un plongeon, dit-on, soit dans l'au-delà, soit c'est une scène ésotérique liée au pythagoricisme, qui était très important, comme on l'a dit, en Grande Grèce. Voilà, une autre ville en Sicile maintenant, enfin quelques villes de Sicile maintenant, Agrigente, qui est au sud de l'ouest de la Sicile, qui est un site magnifique, puisqu'on a un immense amphithéâtre et on découvre la vallée des temples, qui sont étagés le long d'une colline, des temples du début 5e avant Jésus-Christ. Donc il y en a un certain nombre dédiés à Zeus, Héra. Le mieux conservé, c'est celui qu'on appelle de la Concorde, 5e avant Jésus-Christ, toujours style dorique, le premier style architectural de la Grèce. Une autre ville, Célinonte, le site est immense, très vaste, puisque c'est une ville très puissante au 5e siècle, avec l'acropole et 7 temples. Mais la ville ayant été détruite par les Carthaginois en 409 avant Jésus-Christ, rasée, il y a beaucoup de restes à terre. Un temple était remonté, celui d'Héra. Mais en 1957 seulement.
Ah, en 1957,
on a remonté le temple, les archéologues. Ensuite, une autre ville, Ségeste, avec un très beau temple aussi. Le site est magnifique puisque c'est sur une colline à l'extérieur de la ville, un temple dédié à Cérès, 5e avant Jésus-Christ.
Cérès,
la déesse de la moisson, voilà. Et puis le théâtre aussi. Qui date du 3e siècle sur une colline qui domine le site du temple et qui pouvait contenir 4000 spectateurs. Et puis une dernière ville, peut-être Syracuse, divers temples. Par exemple, il y a le temple d'Athéna dont les colonnes sont intégrées à la cathédrale de Syracuse.
Cathédrale chrétienne. Chrétienne.
Oui, oui, on voit les
donc
colonnes.
Là, c'est
voilà.
La récupération.
Les récupérations, oui, mais c'est ainsi
non,
qu'on a pu les conserver.
Voilà.
On a pu les conserver. Et puis le théâtre aussi, qui est très beau et qui pouvait, première moitié du 5e, mais remanié par les Romains, et qui est le plus vaste de l'île, puisqu'il pouvait contenir 15 000 spectateurs.
C'est énorme.
Énorme, ah bah oui.
Énorme, oui.
C'était le plus vaste de l'île, quand même.
Alors,
voilà.
C'est grec. Ça s'est terminé comment, l'hégémonie grecque dans le sud de l'Italie?
Ah ben, l'hégémonie grecque s'est terminée, peut-être pas tout à fait, mais on pourrait parler du rôle important de Carthage, qui est la ville de Tunisie, à l'emplacement de Tunis actuellement à peu près, et aussi le rôle des Romains. Parce que toutes ces cités, en particulier Sicile, ont connu une période très brillante au 5e avant Jésus-Christ, qui correspond à la grande période brillante de la Grèce d'ailleurs. Mais il y a eu des rivalités entre elles, il y a eu la convoitise des Carthaginois, même d'Athènes d'ailleurs, et en Sicile tout particulièrement.
Pourquoi la convoitise d'Athènes ?
Eh bien parce que bon, c'est un événement un peu particulier. En 415 avant Jésus-Christ, dans le cadre de la guerre du Péloponnèse, c'est-à-dire la guerre entre cités, en l'occurrence là entre Athènes et Sparte, une ville du Péloponnèse, Athènes voulait contrer la puissance de Syracuse et va organiser une expédition en Sicile qui va se révéler vraiment catastrophique. Mais bon, ils sont quand même venus ici. Et puis il y a eu surtout le rôle de Carthage, puisque Carthage est jalouse de cette puissance syracusaine. Donc elle va attaquer Syracuse, Agrigente aussi, et il va y avoir une série de guerres qui vont durer presque tout le IVe siècle avant Jésus-Christ, pour se terminer par la prise de pouvoir de Carthage, qui va devenir la principale puissance de la Sicile.
Et les Romains, c'était après.
Et les Romains, c'est après, donc qui ont joué un rôle très important, puisque les Romains finissent d'abord la conquête de l'Italie, donc par l'Italie du Sud, par la prise de la ville de Tarente en 272 avant Jésus-Christ. Et puis surtout, ce qui est plus connu, c'est que les Romains vont affronter Carthage, qui est en Sicile à ce moment-là.
Les Carthaginois.
Ouais, je dis Carthage, mais c'est les Carthaginois, oui, c'est pareil. Et donc, en particulier, la première guerre punique au milieu à peu près du IIIe siècle, qui va se conclure par la conquête de la Sicile, qui va devenir province romaine. Parce que c'était une grande terre à blé, et donc les Romains avaient besoin de beaucoup de blé pour nourrir leur population à Rome. Voilà. Mais cela ne veut pas dire que la présence de la Grèce n'est plus présente, hein, enfin, n'est plus là, disons, puisque l'hellénisation du sud de l'Italie et de la Sicile a laissé des marques dans cette région, en particulier, on a vu, par les restes archéologiques.
Et la musique.
Et la musique.
Et les dialectes.
Voilà. Et la langue, oui, la langue, bien sûr.
Et la langue.
Et on va écouter un autre morceau du canzoniere Greccanico Salentino. Et ce morceau s'appelle Tamburia d'Unia, et qui est une tarentelle. La tarentelle et le phénomène de la tarentelle, qui est thérapie musicale pour soigner les morsures de l'araignée.
De l'araignée, oui.
À plusieurs formes, et on va en entendre une.
Chantal nous avait parlé de ça il y a quelques années. Oui.
Une des formes, voilà.
pace ballare. E na 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 na, vede che l'amore ci lo sape fa. Na 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 na, vede che l'amore ci lo sape fa. Come balla non sei da rose, e na 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 na, e vede l'amore ci lo sape fa, na 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 na, e vede l'amore ci lo sape fa.
Alors, la tarentelle est typiquement du sud de l'Italie, on le disait.
Exactement.
Et dans le sud de l'Italie, elle est chantée soit dans le dialecte local, soit dans ce dialecte, cette langue grecque, hein, mélangée de grec et à forte consonance grecque, avec quelques notes d'italien ou de langue régionale. Et encore une fois, cette musique calcanico salentina, elle est... Et là aussi, des influences orientales, voire turques. Voilà. On va déjà remercier Arlette.
Parce merci Arlette.
Merci à vous aussi.
De cette contribution hellénistique, c'est comme ça qu'on dit ?
Hélène, non ?
Hélène.
En tous les cas, intéressante. Et on avait promis l'autre fois, enfin tu avais promis...
De parler du gutturno.
Voilà.
Alors et en 15 secondes, c'était pas possible.
Il faut tenir ses promesses.
C'était faire injure au gutturno d'en parler.
À moins que Laurent, qui est à la technique, ne soit pas d'accord, mais sinon il faut tenir.
Si, si, parce que sur 97.1, il est d'accord.
Ah bon, d'accord.
Donc le gutturno, c'est un vin des collines de la plaine du Pô. Quand on va,
on remonte là, oui.
Quand on va de Turin à Piacenza, sur la rive gauche du Pô, tout le monde connaît les rizières. Mais ce que l'on connaît moins, c'est tous les bons vins qu'il y a sur la rive droite dans les collines. À commencer par les langues, mais quand on va un peu plus en direction de Piacenza. On a d'abord les vins des collines de Tortona, et puis ensuite les vins des collines de Piacenza, colline et Piacentinese. Alors je vais vous parler du gutturno, qui est un vin qui est produit dans le Val Tidone. Et le Val Tidone, c'est une petite rivière qui monte au Passo Peniche, un col. Et le village principal, c'est Borgo Novo. Et ce vin, j'en parle avec grand plaisir parce que je l'aime bien et il est très bon. C'est un mélange de deux cépages, du Barbera, qui est le vin des langues, le cépage des langues, et puis du Bonarda, ou qui a un autre nom, c'est la Croatine. Donc, en gros, il y a 60 ou 70% de Barbera. Et c'est un vin de garde que les Français boivent à partir de 4 ans et les Italiens à partir de 2 ans. Généralement, les Italiens préfèrent des vins un peu plus jeunes. Quand j'en ai acheté, on m'a fait goûter du 2013. J'y trouvais pas très bon. Enfin, donc, la dame m'en a fait goûter un plus vieux. Alors, c'est un vin, le gutturno, comme beaucoup dans cette région et puis dans l'Emilia-Romagne, c'est du vin rouge et que l'on trouve souvent sous la forme frizzante, c'est-à-dire pétillant. Et il faut... Moi, j'aime pas ça, mais ça peut être bon. Par contre, il existe aussi du gutturno qui n'est pas frizzante et qu'on dit en italien « fermo ». Donc c'est celui-là que moi je préfère et qui est très très bon. Donc c'est un vin qui doit coûter dans les 7 à 9 euros le litre. Quoi. C'est pas du Barolo à 25 ou 45 euros la bouteille. Mais vraiment, c'est un excellent rapport qualité-prix. Donc, il y a très peu d'agriculteurs qui en font, surtout du fer. Bon, ils doivent être deux ou trois. Donc, c'est pas très loin de l'autoroute. Vous sortez, vous allez de Turin à Piacenza, vous sortez à Castel San Giovanni, Borgo Novo, et puis après, il y a demandé à Borgo Novo où se trouvent les viticulteurs. Et il y en a un qui, on peut y faire un peu de publicité, c'est la Tenuta Penice, qui a du très bon vin. Et la maison.
On ne reprend pas l'autoroute tout de suite.
On ne reprend pas l'autoroute tout de suite, non, 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 on ne reprend pas.
Mais pour avoir servi de test avec quelques-uns, il est effectivement
très bon.
Eh bien, merci. Eh bien, on va finir l'émission avec un petit clin d'œil entre la musique grecque et la musique italienne. Et puis, pour remercier Arlette d'être venue quand même.
Exactement.
Merci à vous aussi.
Je vais vous faire écouter le groupe Oligon. Ça m'étonnerait que vous l'entendiez un jour en France. Mais bon, moi, je l'ai découvert en Italie à un festival. Et l'histoire de ce groupe est assez intéressante parce que c'est un peu le chemin inverse. C'est un Italien, Simone Mangelli, qui est parti en Grèce, qui a été amoureux de la Grèce, qui est resté en Grèce, peut-être pas amoureux que de la Grèce d'ailleurs, je ne sais pas. Et il a fondé avec des amis grecs un groupe qui s'appelle Oligon et qui fait de la musique traditionnelle grecque, de la Macédoine, de Thrace, enfin toute la, il retrace tout l'historique musical et histoire tout court de la Grèce. Et là, on va l'entendre, ce groupe, donc avec Simone Mangelli, au Bendir, au Taouli, Toubeleki, Michalis Koulumis au violon, Alexandros Kapsokavadis au luth et Evina Petridou à la voix et au luth également. On va l'entendre dans un chant de Crète, Aspra Puglia, sachant que la Crète a eu une forte influence vénitienne, notamment la ville de Hania, de Lacané. Donc c'est un parcours un petit peu inverse là que je vous propose. Et merci encore une fois à Arlette et bonne soirée à tout le monde. À la prochaine émission.
Au revoir, merci.
δείτε την αγάπη μου να μου τη χαιρετάτε. Αντέσαμε.